Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
L'abandon de la terre maternelle, de la famille, le départ vers l'inconnu, l'exil, traité sous une forme poétique, onirique parfois, voilà une approche qui peut surprendre. Et pourtant, grâce à ce roman, nimbé de nostalgie, de couleurs vives et chaudes, de fleurs, de légendes, de génies, de jeans, de rires et de pleurs, nous entrons ainsi dans ce qui fait l'âme de ceux qui arrivent d'ailleurs. Une nécessité, ne pas oublier, se souvenir et transmettre à travers la parole, faits et gestes et dits ancestraux. Cet ouvrage multiplie les approches de la culture du pays d'origine et en montre toute la profondeur et la beauté. Il s'intitule « Les multiples chemins des hommes ». Il est édité par les éditions Vérone et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Anna Naïm. Anna Naïm, bonjour.
Bonjour.
Il y a un lieu, une enfance, un environnement pauvre, mais à échelle humaine, des vergers, une eau qui s'écoule, des champs, une selle, j'allais dire idyllique, mais disons, qui nous fait un peu évoquer le paradis. Où sommes-nous ?
Alors, nous sommes dans le sud-ouest de la France, dans la région toulousaine, et ce jardin merveilleux, ce verger merveilleux existe, et il est regardé et décrit dans le livre à travers le souvenir d'enfance que j'en garde.
Alors, moi, je pensais au premier jardin, à celui dans lequel se trouve un petit garçon qui garde le jardin.
Ah, pardon, le premier jardin, nous sommes dans un pays de l'Afrique du Nord, où effectivement nous sommes en 1930, et un jeune garçon a pour travail d'été de garder ce jardin d'été qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, dans un pays donc d'Afrique du Nord.
Alors, il y a une notion sans doute de pauvreté, puisque ce petit garçon garde ce jardin contre quelques pièces, mais il est riche d'autre chose.
Il est riche de merveilles, il est riche de rêveries, il est riche d'espoir, il est riche de beauté. Et cet enfant, malgré sa pauvreté, est libre et il est riche aussi de sensibilité artistique et musicale. Parce qu'il écoute la musique qu'en fin de journée, on joue, on chante dans ce jardin.
Donc. Oui, et c'est ça, il est riche de beaucoup de choses, cette sensibilité artistique, on le ressent. Il est en phase aussi avec son environnement, avec la nature.
Tout à fait, il est en symbiose avec la nature, il est en accord parfait avec la nature, il se fond dans cette nature et cette nature le protège. C'est son protecteur, en fait. C'est son confident et son protecteur.
Alors justement, en vous lisant et en vous écoutant à l'instant, je me disais, mais dans le fond, il a transmis ça à ses enfants, que nous allons voir plus tard. Oui. Mais dans le fond, est-ce que ce n'est pas également le propre des enfants d'avoir cette sensibilité-là ?
Le propre des enfants, dans tous les cas, cet enfant-là, c'était certain. Ses enfants aussi, les enfants que nous sommes, donc aussi. Mais c'est le propre des enfants que d'avoir cette sensibilité d'émerveillement par rapport à la nature. Je pense que c'est aussi un apprentissage. Ou bien c'est une transmission tout à fait naturelle, ou bien c'est un apprentissage. Il me semble qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'enfants, c'est davantage un apprentissage qu'une sorte de sensibilité spontanée.
Oui, et d'autant que la nature est loin d'eux actuellement.
Tout à fait, c'est bien pour cette raison-là, oui.
Oui. Alors, 27 ans plus tard,
oui,
il est devenu un homme, un maître bâtisseur, un père de famille, et il doit partir. Et là, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que vous ne nous mettez pas en face de cet homme pour l'observer, tel un entomologiste par exemple, mais on est à ses côtés, on le suit.
Oui.
C'est ce que vous avez voulu faire.
C'est tout à fait ce que j'ai voulu faire, le suivre. Alors, on le suit à travers la mémoire, puisque en exergue, donc, nous avons deux vers d'Alfred de Musset qui insistent sur l'importance fondamentale de la mémoire pour les personnes. Si je peux me permettre,
bien
je vais
sûr.
Lire ces deux vers. Alfred de Musset dit donc, « Qu'est-ce donc qu'oublier si ce n'est pas mourir ? Ah, c'est plus que mourir, c'est survivre à soi-même. » Donc, nous suivons ce jeune garçon qui est effectivement devenu un homme, un maître bâtisseur, un père de famille. Nous le suivons sur son chemin, qui va être donc un chemin d'exil, qui va le mener jusqu'ici. Nous le suivons grâce à la mémoire qu'il a transmise à ses enfants, grâce aux souvenirs qu'il a transmis à ses enfants. C'est ainsi que nous le suivons.
Oui, et là, on va en reparler de cette mémoire et de cette transmission. Oui. C'est le mot que j'ai retenu pour moi dans la préparation de cette rencontre. Il y a quand même, cet homme ne parle pas beaucoup, mais il entend et il écoute. Et ce qu'il lui est dit avant son départ prouve la multitude de déchirures qui s'effectuent de part et d'autre. Et alors, j'aimerais Anna Naïm, que vous nous lisiez ce passage, page 9, où on lui dit tout ce qu'est l'exil et ce qu'il est bon de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent. L'exil, c'est pas le plaisir, hein ?
Non. Effectivement, le soir de son départ, nous sommes en novembre 1957, toute la famille donc, s'est réunie dans la maison ancestrale. On avait bien fermé la porte bleu pâle et on lui donne toutes sortes de conseils et d'avertissements. Et on lui dit « La route de l'exil est une séductrice cruelle. Elle est une magicienne, une sorcière, une goule impitoyable. Elle est une mangeuse d'hommes. » On lui dit aussi « L'exil est une bête sauvage qui dévorera ton cerveau. Tu perdras la mémoire, tu perdras la raison, tu deviendras un fou errant, tu oublieras tes enfants, tu ne sauras plus quel est le chemin du retour vers ta terre natale. » On lui dit encore, « Tous les jours tu subiras l'humiliation. Tu subiras l'humiliation car ce pain que tu mangeras à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque c'est de lui que tu as été pris, on t'accusera de le voler aux autres. C'est dans la peine que tu te nourriras tous les jours de ta vie et tu subiras l'humiliation. Tu ne dois pas l'oublier. » On lui dit aussi, « Dans ton rêve d'exil, tu entends de doux chants qui te racontent des pays où ruissellent le lait et le miel, des pays d'abondance et de félicité, des pays semblables au paradis terrestre dont nul être vivant aujourd'hui ne pourrait plus se souvenir. Dans ton rêve d'exil, tu entends de doux chants qui te décrivent des villes lumineuses où prospèrent des hommes sages et accueillants. Tu imagines aussi des forêts enchantées où vivent des animaux fabuleux qui s'approchent silencieusement de toi pour apaiser tes jours de tristesse, pour éveiller ta joie et ton espoir. Tu crois encore aux légendes des temps anciens, toi qui es le père de 4 enfants si jeunes, et tu gardes d'étranges illusions. Homme naïf, ces chimères feront de toi un homme déchu qui ploiera sous l'amertume de ses jours. Ton rêve d'exil ne t'avertit pas. Il ne te murmure pas que les chacals te guettent. Dès que tu auras franchi la porte de l'exil, ces bêtes te pourchasseront inlassablement. Elles flaireront tes doutes et ton épuisement. Elles sont déterminées à se nourrir de ta mort. Tu n'es que poussière et à la poussière tu retourneras. Tu ne dois pas l'oublier.
Voilà un texte fort et en vous écoutant, je réalise soudain que la grand-mère qui viendra à un moment donné va reprendre beaucoup de ces termes.
Tout à fait, parce que le soir du départ, plusieurs personnes parlent et donnent des avertissements. Mmh. Et parmi les personnes qui parlent, il y a la grand-mère et qui va donc reprendre mot pour mot les paroles qu'elle avait prononcées en ce soir de novembre 1957. Elle les prononcera bien des années plus tard. Pas pour le père, mais pour d'autres personnes dont elle a croisé le chemin, qui sont en exil, qui sont en grande souffrance, et qui sont en errance extrêmement douloureuse.
Oui. Et qui les écoute. Et ce personnage, on en parlera parce que c'est un personnage fabuleux, la grand-mère.
Oui.
Un personnage fort.
Très fort.
Alors, fermer la porte bleu pâle d'une maison ancestrale, qu'est-ce que ça signifie pour cet homme ?
Ça signifie pour cet homme que son départ se fait dans le secret. C'est-à-dire que seule sa famille et l'une de ses enfants qui écoute, sait qu'il part. Ses voisins, ses amis... toutes les autres personnes qu'il a côtoyées jusqu'à ce jour-là ne le savent pas. Donc il part en secret, il part en silence, il part seul.
Et il se tait, il ne parle pas d'une manière excessive, même pas. Il est très, très digne. Et il y a une forme de profession de foi. À un moment donné, il dit « Je ne serai pas vaincu par mon destin d'exil. L'oubli ne pourra pas m'anéantir. Ma mémoire ne sera jamais troublée par des chimères. Elle restera aussi claire que les sources et les aubes de mon enfance. » C'est un homme qui est droit, qui sait ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
Tout à fait. Tout à fait, c'est un homme qui part en exil, qui part triste à en mourir, il le dira à plusieurs reprises, donc c'était extrêmement douloureux pour lui. Mais il part pour bâtir, pour construire une vie digne, laborieuse, et qu'il voudra aussi créatrice, rêveuse, libre, mais digne.
Alors, il y a la route qu'il prend, la route de l'exil, et ce qui est extraordinaire, je dirais presque, c'est comme le voyage de Jonas. C'est vraiment, il y a une part de symbolisme, je trouve, dans son voyage, où il y a des rencontres, il est seul, bon, cette solitude, cette tristesse qu'il a en lui, qu'il porte en lui, oui, bien sûr, oui. Mais il franchit des obstacles, il découvre les gens, il découvre le monde. Il sort de son village, quand même, qui était déjà un monde en lui, mais il découvre des choses.
Oui. Alors, ce qu'il découvre, il est seul. Donc, il est seul, il est triste, il est taciturne, il parle peu. Donc, il commence par rencontrer des animaux, mais là, nous sommes dans la fable, hein, puisque le texte, ce chapitre a pour titre « Au commencement des légendes et le voyage ». Donc, effectivement, nous sommes un peu dans la légende. Donc, au départ, il traverse des lieux naturels et il voit des animaux sauvages. Et ensuite, il arrive dans un port. Et effectivement, il découvre, il est sorti de sa ville d'origine, et il découvre une infinité d'êtres humains.
La tour de Babel.
La tour de Babel, en partance et en grande souffrance. Je vais lire ce passage.
D'accord.
Si vous êtes d'accord.
D'accord.
Donc, il arrive dans le port. Il voyait des entassements de malles, de valises, de ballots, de couvertures ou de tapis soigneusement ficelés, et des multitudes d'objets hétéroclites qui serviraient un jour de mémoire à ces hommes d'origine dispersée. Il entendait une si grande diversité de langages incompréhensibles, de dialectes étranges, d'idiomes bizarres, qu'il pensa avoir atteint le lieu où convergeaient tous les chemins de tous les hommes de tous les temps. Il allait pensif à travers cette confusion de mots et de paroles, à travers cette tour de Babel au cœur de laquelle l'humanité luttait contre tant de malheurs. Il entendait des cris de désespoir, des chants infiniment plaintifs, des pleurs, des lamentations pour dire qu'on avait perdu la foi, des murmures pour dire les secrets à ceux qu'on ne reverrait peut-être plus jamais, des supplications pour vaincre les démons qui égarent les hommes dans l'errance perpétuelle et dans l'oubli. Et dans sa langue maternelle, il entendait partout les mêmes paroles sans cesse répétées, certaines semblables à des commandements et d'autres semblables à des bénédictions inspirées par des rêves de bonheur, mais qui ne lui étaient pas destinés. Sois prudent, sois courageux, sois tempérant.
Alors oui, et on a en fond sonore, je dirais, une forme de mélopée qu'il évoque d'ailleurs, que vous évoquez, que vous évoquez, une mélopée. C'est vrai que souvent les chants sont des chants tristes ou qui portent toute la souffrance humaine et ce déracinement. Et en vous lisant, j'ai pensé à Michel Serres, figurez-vous, qui expliquait qu'en fait, l'homme est parti et déraciné. Dès le départ, il a été déraciné, il est parti d'un lieu et puis il a essaimé partout. Et cette mélopée que l'on entend, on va peut-être l'écouter si vous voulez bien. Alors, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Je ne sais pas du tout. Vous pouvez nous le dire ?
En termes de musique ?
Oui, maintenant, que nous allons écouter.
Oui, j'ai choisi d'écouter Juliette Aller sans retour, qui parle effectivement de la souffrance et de l'exil, mais qui n'a pas de lien avec la mélopée que le père écoutait en 1930,
oui.
Voilà, qui racontait les malheurs des hommes dispersés par la guerre ou par l'exil.
Oui, elle
parle quand même de l'exil, de la souffrance,
voilà,
de l'exil.
Oui. Nous l'écoutons.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière, la rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Ce que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, l'exil, l'errance, le départ, le fait de quitter sa terre, sa famille, son environnement initial. Voilà quelque chose de dur que vivent bien des hommes, qu'ont vécu bien des hommes et que vivent bien des hommes actuellement, on le sait. Et d'une manière tout à fait frappante, car poétique, Anna Naïm, dans son ouvrage « Les multiples chemins des hommes », nous fait sentir la dureté de cet exil et en même temps la beauté de la culture que quitte cette famille et qui va recréer autre chose de différent. Et petit à petit, les choses se mettent en place. Alors, on va le suivre, on va suivre cela. On ne dira pas tout parce que les auditeurs seront des lecteurs. Il s'agit, je rappelle aux auditeurs, Les multiples chemins des hommes aux éditions Vérine. C'est ça, hein, Vérine édition. Voilà. Donc, cet homme, on ne lui a pas donné de nom.
Non.
Non, volontairement.
Volontairement.
On n'a pas parlé du pays, on n'a pas nommé le pays, volontairement.
Volontairement.
Voilà. Alors nous sommes en effet dans un lieu qui est quitté, un homme qui s'en va, et cet homme va rencontrer sur le bateau qui l'emmène, où il dit d'ailleurs, une traversée de la mer n'est pas l'oubli. Il va rencontrer un autre homme. Alors qui c'est cet homme qui s'appelle Jean ? Lui, on le nomme.
On le nomme. Donc il y aura trois personnages nommés, on pourra en parler tout à l'heure. Le père n'a pas de nom, j'expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi. Il rencontre Jean sur le bateau, donc l'épisode qui s'appelle « La traversée de la mer n'est pas l'oubli ». Il rencontre Jean sur le bateau et c'est Jean qui vient à lui en lui disant « Le voyage est parfois une chance. Tu es triste aujourd'hui, je le vois, mais tu devras lutter pour être heureux. » Donc Jean s'approche du père et lui dit cela. Qui est Jean ? Jean, alors je ne vais pas donner sa fonction dans la vie, les lecteurs le découvriront cette fonction. Jean, en discutant avec le père sur deux ou trois chapitres, on va comprendre en suivant leur discussion que Jean et le père se sont connus dans ce jardin d'origine.
Enfant.
Jean était le gardien du jardin. Le père était le gardien du jardin et Jean était l'enfant de la famille à qui appartenait ce jardin. Un matin d'été, Jean entre dans ce jardin. Il est malheureux, il est tout en pleurs. Il a perdu quelque chose qui lui est précieux parce qu'il lui a été offert par sa mère qui est décédée du typhus. Le père apprendra quelques années plus tard la raison de la tristesse de cet enfant dont la mère donc était décédée du typhus. Donc le père et Jean se rencontrent enfants, ils ont tous les deux 7 ans. Le père est un jeune enfant pauvre qui travaille. Jean, l'enfant peut-être une famille bourgeoise qui possède donc ce jardin. Jean est désemparé. Le père est un enfant rêveur, mais c'est un enfant extrêmement sensible. Et il va aider Jean à retrouver cet objet précieux, cet élément précieux, cette créature précieuse qu'il a perdue. Donc une amitié merveilleuse se scelle à ce moment-là. Donc, et quand ils se retrouvent sur le bateau, ils se reconnaissent de façon un peu magique.
Oui. Alors en plus, je me suis dit, c'est curieux cette tortue, pour moi c'est un symbole.
Oui, c'est un symbole. La tortue, dont les écailles ont été peintes aux couleurs de l'arc-en-ciel. J'aime beaucoup les arcs-en-ciel. J'aime beaucoup les couleurs.
Oui. J'aime les fleurs et les animaux.
Et les animaux, et les oiseaux.
Et les oiseaux.
Et la nature, qui est merveilleuse. Donc oui, c'est un symbole. C'est le symbole de la permanence de la mémoire. Oui, c'est le symbole de l'enfance, de la nostalgie de l'enfance, de la féerie de l'enfance.
De la longévité aussi des sentiments.
Oui, de la longévité des sentiments. Et tout au long du livre, on comprendra que le père et Jean sont des sortes de jumeaux d'exil. Le père dit souvent Jean est mon ami d'enfance et d'exil. Sorte de frère, bien qu'ils ne soient pas du même milieu au départ. Ce sont des frères, fondamentalement des frères, qui ont la même souffrance d'exil, et ils sont tous les deux orphelins de leur mère. Mmh. Ils ont tous les deux cette sensibilité par rapport au chemin des hommes et à la terre des hommes. Jean parle peu aussi, le père parle peu, ils regardent beaucoup, ils observent beaucoup, ils comprennent beaucoup de choses, et ils souffrent tous les deux beaucoup, ce sont des grands solitaires.
Oui. Donc ils vont quand même, à l'issue de cette traversée, devoir se séparer. Et je ne sais plus qui dit cette immense dispersion des hommes, des origines et des familles. Voilà pourquoi j'ai pensé à Michel Serres. Voilà pourquoi. Donc ils se séparent et ensuite vous allez nous parler de l'arrivée du père, de son labeur. Je vais en parler de là. Et de son installation. Et je trouve que vous mettez très fortement l'accent aussi justement sur la noblesse du travail.
Oui, tout à fait. Ça me semble fondamental. C'était fondamental pour le personnage qui a servi de modèle au père. Le travail, c'est ce qui permet à la personne, à l'individu, de garder sa dignité. C'est un travail absolument nécessaire puisqu'il était bâtisseur, indispensable surtout. C'est un travail qui a toujours été indispensable, mais à la fin des années 50, il était d'autant plus. Et ce père est un artiste, c'est un artiste bâtisseur. Il sait aussi créer de la céramique, il sait aussi créer
de très belles choses.
Donc le travail est ce qui permet le maintien de la dignité, et la transmission aussi de la dignité. C'est un modèle de labeur et de dignité.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand vous parlez des autres travailleurs qui sont tristes, parce qu'eux aussi vivent des conditions difficiles, séparés de leur famille, la plupart, mais endurants, courageux, ils travaillent.
Ils sont.
De même que quand vous parlez du travail, vous parlez aussi de l'école.
Oui, parce que c'est extrêmement important. C'est vrai que le père travaille. La mère dont on parlera peut-être s'occupe de la maison.
On en parlera certainement.
Et les enfants vont à l'école et c'est extrêmement important. Le travail scolaire, déjà dans la famille, les parents ont toujours considéré que le travail scolaire était extrêmement noble et absolument indispensable. Et l'école est centrale. C'est aussi un accueil. L'école est un accueil. L'école est la capacité de créer son chemin dans un pays d'exil et un pays d'accueil. L'école est fondamentale.
Oui. Alors, on revient aussi sur ce qu'ils ont laissé. Et vous avez une plume magnifique. Quand je dis une plume, peut-être que vous écrivez avec un ordinateur.
À la main et à l'ordinateur. Mais voilà. En général, j'écris au départ à la main.
Peu importe dans le fond, parce que vous dites, il y a un passage que je trouve très beau, et plusieurs d'ailleurs, sur la beauté des lieux qui sont quittés dans la maison ancestrale. Et c'est à la page 31, dans la maison ancestrale, trois alcôves. Et vous décrivez très précisément, et tout semble à sa place, et tout est fait pour le charme des yeux, sa beauté. Voilà. Alors, je vais vous faire encore travailler, je sens ça. Hein.
Oui.
Ça, écoutez, avec de tels textes, on ne peut que les lire. Alors, donc, page 31, dans la maison ancestrale.
Oui.
Voilà.
Je vais donc lire ce passage. Donc, je contextualise. Le père est parti, il a traversé la mer et il travaille donc, et la mère et ses enfants sont encore de l'autre côté de la mer. Ils reçoivent une lettre dans la maison ancestrale que je décris. Dans la maison ancestrale, trois alcôves spacieuses qui servaient de chambre pour le repos dans la journée, pour le sommeil de la nuit, et dont l'intimité était préservée par de hautes portes à quatre battants en bois de cèdre subtilement ouvragés, formaient un demi-cercle autour d'une vaste pièce. Dans cette salle, où se déroulait la vie quotidienne, les murs, jusqu'à mi-hauteur, et le sol, étaient décorés de carreaux de céramique à motifs géométriques, étoilés ou floraux, de diverses nuances d'ocre et de bleu. Et une peinture turquoise vif colorait la surface haute des murs. D'un puits de lumière, fermé par une verrière composée de rectangles multicolores, s'écoulaient des clartés diaprées qui tombaient sur des tapis rouges et bruns étalé au centre de la pièce. Des tissus épais en velours bleu indigo, sur lequel se dessinait en relief de grandes roses couleur bouton d'or, recouvraient les trois divans où toute la famille s'était installée, dont la lumière autour d'une table basse ornée d'une nappe claire que des mains anciennes avaient rêveusement brodée d'arabesques vert amande. Là, étaient disposés le pain et le beurre frais, les bols de dattes et de figues sèches, le pot de miel, le pot de lait et les coupelles de miel. Dans un angle, sur un sol en céramique, on voyait un brasero en cuivre doré où rougeoyaient des morceaux de charbon de bois et sur lequel chauffait une bouilloire dont l'eau serait utilisée pour la préparation du thé avec des feuilles de menthe douce.
Voilà, on retrouve, et ce que l'on trouve à bien des moments, la description, les couleurs, les objets, la menthe.
Oui, la menthe.
Les fleurs aussi, on aura, je pense, le temps d'en parler. Et quand même la mer. Alors parlons-en de cette mer. Cette mer, en lisant souvent, on la voit mélancolique, on la voit triste même. Elle pleure. Et je me dis que dans le fond, dans cet exil qui est dur certainement pour son époux et pour une femme qui reste à son foyer et qui a coupé tous les liens qu'elle avait avec la famille, avec les voisins, les voisines, cette vie qu'il y avait dans un village, c'est certainement beaucoup plus dur encore.
C'est extrêmement dur, c'est très douloureux. Le chemin d'exil de la mère est un chemin de douleur, c'est un chemin de souffrance absolue. Alors, la mère est une sorte de personnage de tragédie parce qu'on a le sentiment qu'elle ne maîtrise pas son destin. On a le sentiment qu'elle est emportée par les événements. À partir du moment où son père meurt, il faut savoir que son père meurt lorsqu'elle a 9 ans.
Qu'elle est marquée par
cela. Terriblement marquée par cela, que la mort reste mystérieuse. Et à partir de ce moment-là, la mère répétera souvent que tous les vents du malheur s'acharnent contre elle et entravent toujours sa marche. Donc en fait, son chemin d'exil est un chemin d'une souffrance extrême pour deux raisons. Enfin, pour plusieurs raisons, mais pour deux raisons notamment, parce qu'elle est arrachée à son pays natal, elle est arrachée à ses proches, et puis parce qu'elle n'a toujours pas compris la mort de son père dans son pays natal.
Oui.
Donc c'est une souffrance infinie.
Voilà. Et en même temps, je la vois aussi comme gardienne des coutumes, de la beauté, des rites. Elle a ce rôle-là auprès des enfants. Elle transforme tout, elle décore avec le peu qu'elle a. Et je pense qu'elle a un rôle essentiel aussi.
Oui. Alors, elle a un rôle essentiel dans le sens où, déjà, c'est la mère. Donc, pour les enfants, c'est l'origine. Et les enfants sont particuliers dans ce sens où ils devinent, ils comprennent sa douleur, ils comprennent sa mélancolie. Et c'est comme s'ils souhaitaient la protéger un peu. Et ils observent tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit. Et ils s'approprient absolument tout parce qu'ils veulent comprendre leur histoire. Ils veulent s'approprier ce chemin d'exil et l'histoire de leur famille.
Et en même temps, ils ont la vie en eux.
Oui.
Voilà. Alors... nous allons écouter la seconde pause musicale, celle que vous avez choisie, c'est-à-dire
Dust in the Wind de Kansas, donc qui rappelle effectivement des paroles de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, puisque à la fin du texte, je fais référence à des paroles, à des passages de l'Ecclésiaste de l'Ancien Testament, puisque dans le texte, le texte est marqué par endroits de références, toutes sortes de références, et notamment bibliques, littéraires, des épopées. Enfin,
voilà. Nous l'écoutons.
Thank you.
hopes away. And all your money won't another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind.
All we are is dust in the wind.
Dust in the wind.
Everything is dust in the wind.
Everything is dust in the
wind. Voilà, nous retrouvons
Parole d'auteur Monique Fauché.
Bon, Anna Naïm, qui, parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire encore, Anna Naïm, qui vient d'écrire un très bel ouvrage, Les multiples chemins des hommes. Et oui, Les multiples chemins des hommes. Il y en a beaucoup. Et il y a le chemin de l'exil, celui dont vous parlez, dans la collection Vérone, Vérone Édition. Nous parlions de la mère, celle qui a rejoint son mari, qui s'est installée dans le sud-ouest de la France, venant d'un pays d'Afrique du Nord. Et cette mère, donc, qui porte quand même toute la tristesse de l'exil, mais également marquée aussi par la mort de son père. Toujours est-il que, effectivement, on peut imaginer que dans un endroit un peu isolé, comme c'était le cas, elle se retrouve avec un poids, une solitude plus grande, puisque le mari, lui, travaille, donc est en contact avec d'autres hommes. Mais elle regroupe la famille, voilà, elle regroupe la famille. À un moment donné aussi, on ne va pas avoir trop le temps d'en parler, mais j'ai été très touchée par la description de ceux qui restent, les grands-parents, cette solitude, ce silence qui s'instaure et se vide quand la fille et les petits-enfants s'en vont. On peut imaginer ça. Très bien, vous le dites très bien.
Oui. Lorsque la mère s'en va.
Oui, c'est ça.
Tout à fait. C'est... Donc la grand-mère les attend. La grand-mère imagine qu'ils vont revenir. Enfin, elle les attend. Enfin,
mais c'est voilà. Elle qui va les retrouver.
C'est
à
elle
un
qui va
donné.
Les retrouver. Elle les attend. Elle ne referme pas la porte une fois qu'ils sont partis pour l'exil. Elle s'assied sur le divan, dès l'aube, elle attend jusqu'au soir, jusqu'à la nuit tombée. Et lorsque la nuit tombe, eh bien, elle attend encore.
Oui, voilà. Et vous parlez du silence, on imagine tout ce que vous décrivez, on l'imagine fort bien. Et donc, nous nous retrouvons dans France, où toute la famille, du moins les parents et les enfants, vont se retrouver. C'est très... très amusant, très intéressant, parce que c'est finalement un lieu assez clos. Oui. Ils sont loin du village, ils sont ensemble. Il y a de temps en temps le facteur Bougon qui vient, pas très sympathique le facteur.
Oui,
il y a le paysan qui va louer son vieux bâtiment. Il y a quelques rencontres, mais sinon, ils sont là entre eux. Et il y a une nuit de Noël qui est décrite comme un conte. Et il y a ces enfants qui sont l'insouciance, la gaieté et la vie, qui sont porteurs de vie. Et on peut imaginer quand même que le père est parti pour eux.
Oui, tout à fait. Le père est parti pour eux. D'ailleurs, à la fin du texte, il leur explique. Il est effectivement parti pour eux. Ces enfants sont des enfants, c'est une fratrie très soudée. Ce sont des enfants observateurs qui sont accueillis aussi par la nature et qui, en fait, vont créer des chemins. Ces enfants-là, ce sont des inventeurs de chemins. Ce sont des découvreurs.
Les multiples chemins.
Voilà. Et chacun aura son chemin. Mais ce sont des inventeurs, des découvreurs de chemins qui observent et qui sont très attachés à leurs parents, mais qui sont aussi très attachés à leur grand-mère quand elle vient, parce que la grand-mère transmet.
Alors, on va en parler. Oui. Mais en même temps, je voulais dire aussi qu'il y a des tas de petits symboles. Il y a le chat, symbole du foyer.
Oui.
Le tilleul, ce bel arbre que j'aime beaucoup. Le tilleul, qui est l'arbre sur lequel ils se mettent tous en famille, qui a une ombre bienfaisante. Les pommes, il y a les petits cailloux qu'on trouvera plus loin. Mais enfin, on ne peut pas raconter à nos auditeurs de tout ce que l'on trouve. Mmh. Et il y a la grand-mère qui finalement va venir. Alors, écoutez, Anna Naïm, il y a quelque chose que je n'ai pas compris.
Dites-moi.
On parle de la grand-mère et de son mari qu'ils appellent l'oncle.
Parce que le père de la mère est mort. D'accord. Et donc, oui, cette dame s'est remariée, c'est vrai, et c'est le grand-oncle.
D'accord. Voilà. Oui, qui a une figure paternelle, en
qui
fait.
Qui a une figure paternelle.
Une paternelle. Oui. Voilà. Alors, la grand-mère, c'est une femme assez hors du commun, quand même. Pour moi, elle est hors du commun.
Elle est hors du commun. Elle est hors du temps. Déjà parce que les vêtements qu'elle porte, ce sont des vêtements fabuleux. Ce sont des vêtements de fées.
Les de princesse ou de fées.
Voilà, de princesse ou de fées. Elle raconte beaucoup de légendes magnifiques qui sont des transmissions de la culture de l'autre côté de la Méditerranée et au-delà. Et elle transmet aussi des mots. Elle transmet, les enfants échangent avec elle des mots. Et un des mots qui leur plaît particulièrement est le mot « source », puisque dans, dans la langue de leur pays, du pays natal de leur grand-mère, le mot « source » et le mot « œil » en fait, se prononce de la même manière, et les enfants, le sentiment qu'au fond d'une source, eh bien, on voit, on découvre et on puise des souvenirs. Et c'est ça que leur transmet la grand-mère. Mmh. Des légendes, une origine, une source, une mémoire qui leur permet, tous ces éléments-là leur permettent de créer eux-mêmes leur chemin. Ce sont des richesses qu'elle leur transmet.
Malgré tout ce qu'elle dit contre l'exil, évidemment, raison. Oui. Mais elle est positive. Et il y a quelque chose qui m'a frappée, parce que la mère, à un moment donné, raconte aux enfants une légende, mais abominable, Mina.
Oui.
Bon, et la grand-mère va la terminer.
Oui, tout à fait. Alors la mère, un jour de décembre 1962, la mère est assez triste, et tous ses enfants sont autour d'elle, c'est un jour où il fait extrêmement froid, et elle raconte l'histoire de le conte de Mina, qui est un conte extrêmement lugubre, triste, puisque Mina est une enfant qui se perd dans la forêt, et qui ne retrouve pas son chemin. Et on imagine que Mina et la mère, en fait, sont une seule et même personne. On peut imaginer que la mère s'identifie un peu à Mina, cet enfant perdu, puisque son père a disparu une nuit d'orage, le père de Mina, et la mère a tendance à s'identifier à cet enfant malheureuse. Et à la fin du récit, les enfants trouvent très triste que Mina ne retrouve pas son foyer et soit perdue dans la forêt, erre dans la forêt, seule. Et quelques années plus tard, après la fête de l'école, les enfants s'approchent de la grand-mère et lui disent « Sais-tu, un soir d'hiver, notre grand-mère nous a raconté l'histoire de le conte de Mina, qui est un conte fort triste, et on ne comprend pas pourquoi la petite Mina s'est perdue ainsi dans la nuit froide. » Et la grand-mère transforme, raconte autre chose. Elle modifie la fin du récit. Et là, vraiment, je voudrais la lire parce que cette fin de récit... Voilà. « Un soir d'hiver, dit un enfant, notre mère nous a raconté l'histoire de la petite Mina. Et cette histoire nous a laissé tristes et pensifs pendant plusieurs jours. Dis-nous, pourquoi cette fillette si vaillante s'était-elle perdue dans la forêt et dans la nuit ?»« Mina, lui répondit la grand-mère, qui ne parut pas étonnée par la question, alors c'est un peu merveilleux, voit soudain, à travers ses larmes, briller quelque chose parmi les feuilles mortes, au milieu des ténèbres où elle s'est égarée. » La fillette se penche et elle regarde là, dans la boue. C'est une petite étoile dorée, merveilleuse, et que la fillette entend chanter tout bas. Elle la prend doucement dans ses mains douloureuses et presque figées par le froid. Alors, cette petite étoile magicienne éclaire le chemin de Mina. Et son chant la guide jusqu'à son foyer. Devant la porte de sa maison, sa mère inquiète et malheureuse l'attend. Voilà. Les silhouettes de la grand-mère et de ses petits-enfants traversaient cette calme nuit d'été. Et seule, les enfants avaient entendu la belle fin de l'histoire de Mina. Donc effectivement, la grand-mère est très positive et elle aide les enfants à construire un chemin lumineux pour eux.
Et on retrouvera ce côté positif dans une petite fille qui raconte. Et on se dit, oui, celle-là, elle voit les choses autrement.
Oui. Hein. Oui.
Donc, il y a une transmission.
Oui, il y a une transmission.
C'est certain.
Il y a une transmission à tous les enfants. Mais c'est vrai que lorsque les enfants, à tour de rôle, racontent un récit, certains récits sont tristes, d'autres sont plus joyeux. Mais au final, ils sont tous joyeux, puisqu'ils diront tous qu'effectivement, ils ont été accueillis dans leur pays d'exil par ce qu'ils appellent des paysannes fées. Et c'est un très beau moment lorsqu'ils racontent cet accueil-là. Si je peux j'ai le temps de le lire.
Allez, non, allons-y. Très beau, je ne sais pas combien de temps il nous reste.
Alors, le temps a passé, dit l'un des enfants, et nos jeunes mémoires ont déjà gardé tant de paroles, tant d'images, tant de moments. Et aujourd'hui, en ce soir de septembre 1967, je me souviens de ces trois paysannes fées qui nous ont accueillis dans leur pays rustique, un jour de l'automne 1958 et sous un ciel bleu. Elles ne tenaient pas de baguettes magiques dans des mains nacrées recouvertes de pierres précieuses. Elles n'étaient pas venues jusqu'à nous en glissant de leurs pieds légers sur un arc-en-ciel. Et elles n'étaient pas vêtues de subtiles et brillantes robes que des elfes ingénieux auraient tissées avec des rayons de soleil et des rayons de lune. Cependant, ces trois laborieuses habitantes de la campagne nous ont montré l'espoir d'un chemin nouveau dans le pays de leurs ancêtres. Voilà, c'est un accueil féerique.
Voilà, alors à un moment donné, justement, il y a cette petite fille qui dit « C'était le mois de juin 61, j'ai pensé que pour nous l'exil n'existait plus. Nous avions découvert notre terre promise d'où pourrait ruisseler pour nous le lait et le miel. »
Tout à fait.
Voilà, c'était notre refuge, notre abri, notre paradis terrestre, ce jardin qui nous invitait à inventer des légendes, des vastes champs, etc.
Oui.
Et voilà, et donc il y a cette idée de transmission.
Oui.
Et ce qu'on voit aussi dans cette famille, dans cette histoire, parce qu'effectivement ça va au-delà de cette famille-là, c'est l'importance de laisser de la place aux rêves et à l'imaginaire.
Aux rêves, à l'imaginaire, à la magie. Nous sommes effectivement dans un univers poétique qui permet de mêler la réalité, qui peut être parfois dure, et le songe. Et les enfants se construisent dans cet univers poétique fait de songes et de magie. Ils voient bien la tristesse de la mère, ils voient bien l'épuisement du père qui travaille beaucoup, qui a beaucoup souffert de l'exil. Et eux créent, à partir de cette réalité, un univers poétique, magique, où l'on mêle réalité et songe. Et c'est avec cela qu'ils se construisent.
Voilà. L'importance aussi, évidemment, de transmettre, l'importance des mots. Et je me dis qu'en effet, c'est la transmission orale qui compte. C'est la légende, le conte, les chants aussi.
Oui, les chants aussi. Les chants aussi. Alors, ce texte, c'est
C'est le rôle... je vous interromps à naissance. Oui. C'est le rôle des femmes, ça, en principe, non ?
Oui, c'est le rôle des femmes, mais... Vous savez, sur les chantiers, les hommes fredonnaient beaucoup, chantaient beaucoup. Enfin, le père, dans le récit, ne chante pas. On le dit à plusieurs reprises qu'il ne chante pas. Mais ses compagnons de labeur, les autres bâtisseurs, fredonnent. Ils fredonnent des chants tristes, ils fredonnent des mélopées qui leur rappellent des souvenirs d'enfance, qui leur rappellent des lieux d'autrefois. Autrefois, on chantait sur les chantiers. Les hommes chantaient, oui. La grand-mère, elle ne chante pas, elle raconte des légendes.
Voilà.
Oui.
Voilà. Et elle donne justement, elle donne un espace important de culture aux enfants.
Oui.
Alors, j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez écrit cet ouvrage.
Ah. Alors, oui. Donc, cet ouvrage, j'avais envie de l'écrire depuis très très longtemps. Enfin, j'avais écrit des poésies pour lesquelles j'avais eu des prix, j'étais jeune, il y a plusieurs années de cela. Eh bien, il y a 2 ans, cet ouvrage me poursuivait. Il me harcelait, je devais l'écrire. Donc, quand j'ai commencé à l'écrire, je dirais presque que la forme s'est imposée. Je ne voulais pas écrire un ouvrage réaliste qui raconte de façon misérabiliste l'exil,
dramatique.
Non, je voulais en faire une fable. Une fable, les mots sont très importants pour moi, les constructions de phrases, les images, la nature, les couleurs, les fleurs, les animaux. Et j'ai mis tout cela dans cette fable, qui pourtant raconte une histoire qui est peut-être une histoire douloureuse. Et donc, et la fable, le conte, permet en fait de tout dire, de tout raconter, sans dramatiser,
ouais.
sans violence. Voilà. Et il permet aussi au lecteur de s'approprier ce qu'il veut, de le comprendre comme il le souhaite, en fonction de son âge, de sa position, de son histoire personnelle, de ses références littéraires. Voilà. La fable permet tout ça. Elle permet de tout dire. Elle permet la stratégie, je dirais presque, de l'implicite, enfin, sans rentrer dans des observations littéraires. Mais la fable permet de tout raconter, même les moments les plus malheureux.
Et en même temps, on est loin du monde matérialiste.
Nous sommes très loin du monde matérialiste et c'est le choix fait par les parents. Le père dit à un moment donné, dès qu'il arrive en exil, je sais que le rêve se construit à partir de peu de choses. Et la mère dit, lorsqu'elle s'apprête à partir pour l'exil, planterons ensemble l'arbre de la tempérance, parce que la tempérance est un arbre dont les racines sont le contentement de peu et les fruits le calme et la paix. Donc en fait, ils se contenteront de peu. Ce qu'ils veulent, c'est cette vie digne, en fait.
Voilà. Alors, il s'agit finalement d'un conte, je dirais, oriental. Je pense à certains contes perses, en particulier, oui, que j'ai beaucoup lus, qui nous fait comprendre à la fois le fondement, la spécificité d'une autre culture et la nécessité de la transmission. Il ne faut pas laisser s'évaporer cela. Et puis la douleur de l'éloignement, du déracinement, de l'exil. Voilà. Et je trouve que de cette manière, comme vous le dites, cette manière poétique, nous le fait comprendre. Vous ne nous assénez pas vos vérités.
Oui.
Vous nous les faites comprendre de l'intérieur. Alors, j'aimerais bien, pour terminer, que nos auditeurs entendent de quelle manière vous décrivez la nature. Et on se quittera là-dessus. À la page 42, les boutons d'or, le printemps s'éveilla lentement. Je pense qu'on a le temps, un petit peu de temps encore.
Alors,
dans, on a 2 minutes, on peut peut-être...
Bon. Donc c'est le printemps.
Le printemps s'éveilla lentement, oui. Voilà.
Le printemps s'éveilla lentement. Les boutons d'or fleurirent dans les prés et au bord de tous les chemins. Les champs de blé en herbe, pareils à de légers tapis de soie vert vif, ondulaient sous le soleil doux et le ciel pur. Et l'on entendait leur froissement mélodieux tout le long du sentier qui conduisait à la maisonnette dans laquelle s'était installé le père. C'était une jolie maisonnette de briques et de galets avec un jardinet et un puits. Les jonquilles soudaines illuminaient déjà le pourtour de ce puits qui avait été creusé, il y avait probablement fort longtemps, du côté du soleil levant. Puis, les tulipes jaspées et les iris de couleur et les iris de velours mauve ou violet ou même doré s'épanouirent dans tous les jardins des fermes du voisinage. Et bientôt, les haies de lilas embaumèrent toute la campagne. Quelques abeilles, encore engourdies par leur long repos de l'hiver, voletaient tout près des herbes odorantes et des petites fleurs bleues qui apparaissaient un peu partout. Dans le jardinet, les légumes dont le père avait semé les graines dès la fin de l'hiver commençaient à montrer de fragiles pousses luisantes et soigneusement alignées.
Voilà, voilà. Merci Anna Naïm pour ce bel extrait aussi et ces belles lectures. Les multiples chemins des hommes, un texte très poétique, mais également pour ceux qui ne seraient pas fanatiques de poésie, c'est quand même un texte qui dit beaucoup de choses et des choses importantes. Aux éditions Vérone, Les multiples chemins des hommes. Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.